Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute d'un dimanche de campagne, l'émission qui est là pour faire le point sur la course à l'Élysée. Nous sommes aujourd'hui à 35 jours du premier tour et au 11e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une guerre qui continue de dominer les débats politiques, on va le voir dans un instant à l'occasion des deux meetings du jour. Celui de Jean-Luc Mélenchon à Lyon.
L'invasion de l'Ukraine change le cours de l'histoire.
Et celui d'Éric Zemmour à Toulon, où Marion Maréchal vient d'officialiser son ralliement. Nous irons sur place également. Ensuite, ce sera la semaine politique de Cyril Lacarrière, semaine marquée par l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron dans la presse et en musique.
Vous êtes là pour le candidat, donc appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème.
Tout sauf une surprise, mais un passage obligé pour celui que la situation internationale favorise, quoi qu'on en dise, au grand dam de ses adversaires qui redoutent une campagne escamotée, sans vrai débat sur les autres sujets. Au sommaire de cette émission également, au Laïc citoyen, avec Jean Massier qui s'est intéressé au président ukrainien, Volodymyr Zelensky. On reviendra aussi sur la décision de la primaire populaire de soutenir Jean-Luc Mélenchon plutôt que Yannick Jadot après l'abandon de Christiane Taubira qui renonce faute de parrainage. On se demandera au passage quels enseignements tirer des primaires d'une manière générale, primaire populaire ou primaire tout court. Pour Valérie Pécresse, ce n'est pas pour l'instant l'effet escompté, pour Yannick Jadot non plus. Avec nous pour aborder tous ces sujets et bien d'autres encore, ils sont quatre ce soir autour de cette table. Deux représentants de la presse écrite, Ava Djamchidi, bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter politique au magazine Elle, Marcelo Vesfred, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique au Parisien, où vous suivez plus particulièrement Emmanuel Macron. Avec nous également Thomas Legrand de France Inter, bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Vous êtes venu avec vos bobineaux, ce soir vous nous parlerez d'un candidat à la présidentielle qui a un petit peu disparu d'histoire.
Complètement disparu même.
Martial Barbu, candidat en 1965, un homme qui parlait d'amour.
Mon général, vous avez faim de l'amour des Français, j'en suis sûr, et cela crève les yeux.
Voilà, on l'entendra plus longuement tout à l'heure. Et puis avec nous également Yaël Gauz, bonsoir Yaël.
Bonsoir Claire.
Chef du service politique de France Inter, merci à tous les quatre d'être là. Merci aussi à Cyril Lacarrière, le rédacteur en chef de cette émission, à Stéphanie Texier qui la réalise, ainsi qu'à Mathias Alléon qui est à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
Et pour commencer, direction Lyon, où Jean-Luc Mélenchon tenait meeting en début d'après-midi. Un meeting en plein air baptisé « Meeting pour la paix », référence à ce qui se passe en Ukraine, bien sûr. Bonsoir Laurence Pleuron.
Bonsoir Claire,
vous êtes à Lyon.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Laurence, l'Ukraine, il en a été question dès le début de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis avait visiblement quelques mises au point à faire.
Oui, une grande leçon de pédagogie. Alors ça a commencé même avant l'arrivée du candidat de l'insoumis en chef sur la scène. Des petites vidéos ont été diffusées dans lesquelles Jean-Luc Mélenchon rappelait qu'il a toujours alerté sur l'Ukraine. Alors il y avait une série comme ça de montages qu'on a d'ailleurs pu voir sur les réseaux sociaux. Il y avait un opposant russe aussi filmé qui expliquait que Jean-Luc Mélenchon avait toujours été plutôt du côté des gens qui s'opposaient au régime de Vladimir Poutine. Et Jean-Luc Mélenchon en a profité pour rappeler ce qu'est sa position, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on refuse d'être, comme il le dit, le bagage accompagné des États-Unis, parce qu'on souhaite sortir de l'OTAN, que pour autant on est véritablement dans le camp de Poutine. Il l'a complètement condamné, hein, comme il l'avait déjà fait la guerre en Ukraine, considérant que c'était une guerre honteuse et défendue. Alors ce qu'est son nouveau concept, hein, une diplomatie altermondialiste qu'il appelle le non-alignement. Et il s'est fait vraiment très très pédagogue pour l'expliquer aux gens. Je vous laisse écouter la manière dont il répond aussi aux critiques dont il a été l'objet d'une partie de la classe politique et notamment de ses anciens amis socialistes et des écologistes.
Demandez-vous où étaient tous ces gens qui aujourd'hui font des discours et se donnent des airs importants quand on les alertait. Que disaient-ils? Que faisaient-ils? Rien, à part m'accuser et me caricaturer, parce que comme je n'étais pas aligné instantanément sur les derniers désirs des États-Unis d'Amérique, c'est donc dans leur raisonnement étroit et borné, que j'étais partisan de l'autre camp. Non, je suis non aligné. Vous êtes non aligné. Nous sommes non alignés.
Et manifestement, les gens ont été plutôt convaincus. J'ai croisé tout à l'heure un petit garçon de 13 ans qui a connu Mélenchon grâce à TikTok et qui était venu avec sa maman, qui elle n'est pas du tout insoumise, et qui considérait que cette mise au point Jean-Luc Mélenchon tombait à point nommé et qu'elle était assez convaincante. Manifestement, le non-alignement a en tout cas été expliqué de manière à ce que les gens puisse en tout cas repartir avec et expliquer que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un allié ou un agent de Poutine, comme a pu le dire Anne Hidalgo.
Alors, l'Ukraine à la une, Laurence, Jean-Luc Mélenchon n'en a pas pour autant oublié les autres sujets au cœur de son programme.
Oui, alors il a rappelé que cette crise avait permis d'enrichir les milliardaires de ce pays, qu'il a appelé des parasites covidaires. Il en a profité aussi pour revenir sur la lettre, l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron lorsqu'il est entré en campagne. Il parle d'une lettre aux Martiens disant à ses insoumis que si jamais ils veulent continuer encore comme ça pendant 5 ans, eh bien ce sera en gros du sang et des larmes. Il faudra travailler plus pour gagner pareil, voire travailler moins. Il s'en est pris à ce qu'il appelle le ruissellement par le haut, avec des bonnes formules, comme il sait en avoir. Le ruissellement par le haut, ça s'appelle selon lui un aspirateur. Je tenais à dire aussi que sur l'Ukraine, il, tout en refusant l'union sacrée, il a dit qu'il serait toujours aux côtés du chef de l'État pour défendre ses orientations, qu'il ne serait pas de ceux qui tirent dans le dos. Ça avait le mérite de la clarté. C'était important qu'il le dise aussi au moment où il est souvent contesté pour justement être assez déloyal, ce qui a été le cas à l'Assemblée nationale où on lui a reproché sa déloyauté lorsqu'il a contesté notamment l'envoi d'armes par l'Union européenne aux combattants en Ukraine.
Voilà, ça c'était mardi. Petite question sur le choix du lieu, Laurence. Pourquoi Lyon pour ce grand meeting en plein air et pourquoi cet endroit précis dans la ville ?
Alors Lyon, c'est déjà la deuxième ville de France. C'est une ville qui est aux mains des écologistes, qui en ce moment le rudoie particulièrement. On est sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier qui fut un quartier très populaire, qui aujourd'hui est un quartier plutôt bobo. Et d'ailleurs, ça se sentait dans le public aujourd'hui. Mais on est surtout dans cet endroit où, au milieu des années du 19e siècle, 1830, entre 1830 et 1848, on a eu 3 révolutions de tisserands, qu'on appelait à l'époque les canuts lyonnais. Et leur révolte a beaucoup inspiré Karl Marx. Donc on sait que Mélenchon aime beaucoup l'histoire et d'ailleurs il l'aime tellement qu'il connaît par cœur la chanson des Canuts qu'il a chantée en fin de meeting. Ça fait un petit moment que je suis Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais entendu chanter en public. C'était assez émouvant, faut pas, peut-être pas, mais en tout cas c'était assez surprenant.
Voilà, c'était pas mal en plus, hein, faut le dire.
Il chante juste, c'est
bien,
oui. C'est vrai.
Voilà, c'était une chanson de Jean-Luc Mélenchon. Puis après il y a eu la Marseillaise, mais ça c'est beaucoup plus classique. Un très grand merci, Laurence
Perrot. Voilà, et pas l'international, hein, qu'il ne fait jamais jouer, ce qui est assez curieux, alors que les militants la reprennent de même.
Merci Laurence Perrot avec Benjamin Thuot. Un petit commentaire sur ce meeting autour de cette table.
Oui,
là, Thomas
oui,
Legrand, vous avez envie d'en dire des choses, hein.
Oui, parce que le non-alignement de Jean-Luc Mélenchon, c'est une position nouvelle. Et c'est pas ce qu'il était avant. Avant, c'est vrai qu'il n'a jamais été poutinophile, comme a pu l'être Marine Le Pen, et comme l'était évidemment et à fond Éric Zemmour. Non, mais il était russophile. Il comprenait la logique des Russes par détestation de l'Amérique. Et par exemple, quand il s'agissait de la Syrie, et ça c'est très important, il a considéré que la solution en Syrie, et il l'a dit plusieurs fois, c'était la Russie qu'il avait. Et on sait qu'en Syrie, on a vu ce qu'a fait la Russie. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout combattu Daesh, la Syrie en Russie. Elle a combattu les modérés, les opposants de Bachar al-Assad. Elle a maintenu Bachar al-Assad. Elle a écrasé Alep et d'autres villes sous les bombes. Et à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon était du côté de la Russie. Pas de Poutine, mais de la Russie. Et avant l'invasion, il disait « l'agresseur, c'est l'OTAN, l'agressé, c'est la Russie ». Donc il n'était pas du tout non-aligné. Il a changé, il dit qu'il est non-aligné, là où il ment un peu, c'est qu'il dit qu'il a toujours été non-aligné. Là, évidemment, l'histoire lui donne tort. Alors, il se débrouille pas mal. Il dit quand même, bon, bah, voilà. Et puis, il devient, il a une attitude plus loyale envers la France et envers les démocraties. C'est vrai. Mais il tord un peu l'histoire et il se donne un beau rôle ici. Voilà.
Alors, est-ce que la clarification attendue a eu lieu, Ava Jamshidi ?
Je ne sais pas si elle a vraiment eu lieu. Enfin, vous venez de le rappeler, ça n'a pas toujours été sa position. Ce que je trouve assez habile quand même dans sa manière de gérer sa russophilie passée et pas sa poutinophilie, c'est le fait qu'on est quand même dans un contexte où Vladimir Poutine agite la menace nucléaire. Il y a un contexte d'inquiétude pour les Français. Et finalement, cette position de non-alignement, c'est aussi une manière pour les électeurs de dire qu'au moins avec lui, eh bien, on se mettrait à l'abri de toutes ces menaces. Et je trouve que cette carte rassurante peut être habile pour lui, tout simplement.
Il y a une clarification à gauche qui est en train de s'opérer dans cette campagne présidentielle sur le dossier ukrainien. Il y a aujourd'hui deux gauches, celle du non-alignement, expliquée par Jean-Luc Mélenchon en termes pacifistes, et un virage très important et qui crée des problèmes au sein des écologistes de Yannick Jadot, qui lui soutient les livraisons d'armes de l'Europe à l'Ukraine, aux résistants ukrainiens.
C'est pas,
il y avait son discours.
Ils ont toujours été comme ça, les écologistes. En tout cas, Yannick Jadot a toujours été
dans l'écologie. Dans l'écologie, il y a une grande partie chez Yannick Jadot. Il y a une grande partie dans le mouvement écologiste de pacifistes, anti-militaristes. Oui. Donc, on voit en Allemagne que ça crée de forts remous d'ailleurs dans la coalition pour les écologistes qui voient le virage militaire arriver avec d'un seul coup 100 milliards d'euros que Olaf Scholz annonce pour investir dans la Bundeswehr. Côté français, on voit aussi les dégâts que ça fait. Le départ de Sandrine Rousseau, on y reviendra. Mais il y a tout ça derrière. Yannick Jadot, le discours qu'il a tenu place de la République hier à Paris, c'était clairement un appel à la résistance armée de l'Ukraine, aller plus loin encore. Donc là, on voit bien de gauche par rapport à cette crise ukrainienne.
Des remous qu'on a vus au Parlement européen aussi. Marcel Ovestrette, sur ce meeting de Toulon.
Oui, non,
de Lyon.
Ça va avoir un impact, ce que dit Yael Gauss, parce que sur la position un peu d'équilibriste de Jean-Luc Mélenchon, lui permet quand même de pas trop souffrir électoralement de ce qui, des images terribles qu'on reçoit depuis l'Ukraine. En revanche, quand il va s'agir de maintenir, d'amplifier la dynamique en allant siphonner les voix des autres formations à gauche, c'est-à-dire de jouer le vote utile, là, il va se heurter aux critiques violentes d'un Jadot, d'une Hidalgo, qui dénonce sans arrêt sa poutinophilie. Alors, on vient de discuter si elle était exacte ou pas. Mais en tout cas, ça veut dire que si aujourd'hui, il limite la casse, contrairement à d'autres, sur cette question russe, en revanche, ça risque de lui coûter cher dans un deuxième temps.
Il tente la synthèse molle qu'il reprochait à une époque à François Hollande.
Oui, c'est quand même étonnant, l'équidistance et la neutralité quand il y a un agresseur et un agressé. Bon, là, je pense que ça va être difficile à tenir, mais c'est une position qui, électoralement, pour l'instant, en tout cas dans les sondages, n'a pas l'air de lui coûter. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais réussi à être contre deux impérialismes à la fois. On pourrait très bien être contre deux impérialismes, l'impérialisme américain et l'impérialisme russe, il apprend à le faire.
Ah bah, Jamshidi, un dernier mot, puis après on va partir à Toulon.
Et à ce stade, il continue quand même de faire la course en tête, il faut le rappeler. Il était, vous l'avez dit, à la Croix-Rousse où Christiane Taubira, donc, qui vient de renoncer, avait elle-même déclaré sa candidature et il bénéficiait quand même aussi de ce contexte de candidature à gauche qui peine toutes à émerger aujourd'hui.
Comme promis, maintenant, direction Toulon, où Éric Zemmour a réuni ses soutiens au zénith de la ville. Cet après-midi, c'était un petit peu plus tard que Jean-Luc Mélenchon. Pour le candidat de Reconquête rattrapé par le principe de réalité avec la crise ukrainienne, il s'agit ce soir de clarifier une nouvelle fois son discours, car les derniers sondages montrent que certains de ses partisans ont un petit peu de mal à le suivre. Élodie Forêt, vous êtes sur place pour France Inter. Bonsoir Élodie.
Bonsoir, j'espère que vous allez réussir à m'entendre, parce que là il y a Éric Zemmour.
On entend de la musique en tout cas, voilà, il a pas commencé.
Éric Zemmour est en train de monter sur scène et forcément il y a, là c'est un peu la folie comme à chaque début de meeting d'Éric Zemmour avec la musique extrêmement forte et vous l'entendez, les 8000 personnes présentes à ce meeting de Toulon qui l'acclament. Alors vous me parliez, je crois, parce que j'ai pas très bien entendu votre lancement, mais vous me parliez de la dynamique qui s'est enrayée ces derniers jours, effectivement, on l'a vu dans les sondages, on l'a vu aussi avec d'autres indices, cette matinale par exemple sur France Info qui a été annulée à la dernière minute, une mauvaise passe évidemment sur fond de guerre en Ukraine avec un candidat qui a eu bien du mal à coller à l'actualité, à adapter son discours finalement et qui a enchaîné les bévues en qualifiant encore au salon de l'agriculture la guerre de distraction au vrai problème ou en se positionnant contre l'accueil en France des réfugiés ukrainiens. Bref, ça s'enraye ce soir à Toulon devant ce zénith plein à craquer. Éric Zemmour espère bien rebondir en adoucissant déjà son discours sur l'Ukraine. Il devrait tout à l'heure revenir sur ses propos sur les réfugiés. Et puis évidemment, il y a ce ralliement tant attendu de Marion Maréchal. Marion accueillie en triomphe tout à l'heure. C'est Philippe de Villiers qui l'a introduite. Elle est belle, elle est de droite, elle est blonde. Elle a été acclamée comme jamais par le public. La nièce de Marine Le Pen qui a justifié son choix. J'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain. Un discours très efficace. Marion Maréchal très à l'aise pour ce retour sur scène. Seul bémol, le moment est un peu gâché par un élément que le staff Zemmour a pris en compte bien trop tard. La plupart des chaînes d'infos ne diffusent pas le meeting car mardi les compteurs de temps de parole sont remis à zéro, figurez-vous, et d'ici là il faut rééquilibrer. Alors du coup ça invisibilise un petit peu ce ralliement.
Merci pour toutes ces précisions, Élodie Forêt, avec Hélène Langlois à Toulon. Nous aussi, il va falloir qu'on rééquilibre les temps de parole, Yael Gauz, mais quand même oui, un petit commentaire, déjà sur le ralliement.
Il y a tant d'antennes et tant de paroles, c'est extrêmement subtil, c'est-à-dire que quand vous parlez d'un sujet, ça ouvre un compteur, même si la personne, le politique en question, ne parle pas dedans.
Hein. Là, c'est décompté par exemple, là, ce que vous dites. Là,
le mot Éric Zemmour, ça y est, ça ouvre un compteur. Et donc, on passe en équité renforcée à partir de mardi prochain, jusqu'au 28 mars, et donc ça veut dire, évidemment, exposition similaire, dans des tranches d'infos similaires pour tous les candidats. Pardon, votre question,
non,
Claire.
Écoutez, on va attendre ce que va dire Éric Zemmour, qui a évidemment aussi lui aussi quelques points à préciser, mais sur le ralliement de Marion Maréchal, il était attendu.
Il était attendu, mais j'ai envie de dire que la fête est un peu gâchée par les circonstances de la guerre qui font qu'Éric Zemmour pâtit fortement de son positionnement. Élodie faisait allusion aux réfugiés ukrainiens, sur lesquels Marine Le Pen, elle, n'a aucun complexe à dire qu'il faut les accueillir, les héberger, tendre la main, au nom de la Convention de Genève. C'est la fille de Jean-Marie Le Pen qui dit ça, rendez-vous compte. Alors que Éric Zemmour veut les cantonner à la Pologne. Et effectivement, au Salon de l'Agriculture, vendredi, il disait, ne nous laissons pas distraire par la guerre en Ukraine. Le vrai grand remplacement, il vient par le Sud, pas par l'Est. Et là, évidemment, on se dit, mais à quoi joue-t-il? Il fait le pari que la guerre ne durera peut-être pas et que lui pourra revenir sur ses fondamentaux après, vers le 10 avril, lorsqu'il y aura vraiment l'élection au premier tour. Mais c'est un pari extrêmement risqué, ça l'isole complètement sur la scène politique. Et du coup,
ça s'en ressent dans les sondages.
Le coup de main, le SOS de Marion Maréchal maintenant apparaît un peu décalé et pas forcément productif, on va y revenir.
Marcel Westfred.
C'est encore un ralliement qui vient sur la droite d'Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'il veut incarner l'union de toutes les droites et ses ralliements, à l'exception de Guillaume Pelletier, viennent toujours des rangs du camp de Marine Le Pen. Donc il déséquilibre à nouveau son image. Par ailleurs, bon, c'est vrai qu'elle est plus connue que Nicolas Bay et d'autres qui sont arrivés avant, donc ça peut jouer un rôle, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est peu audible. Et sur le fond, il a quand même du mal à... Certains, on l'a vu avec Mélenchon, on le voit avec Marine Le Pen, sont plus pragmatiques sur cette question de l'Ukraine. Lui, il fonctionne encore en essayiste et il maintient ses positions parfois encore quand il dit que Vladimir Poutine est un démocrate autoritaire et non pas un dictateur. C'est des choses quand même qui sont difficiles encore à assumer. Il les maintient et donc il est celui qui dévisse le plus, qui pâtit le plus de ses positions passées sur la Russie. Peut-être aussi sociologiquement a-t-il des électeurs CSP+, on dit en général, qui sont peut-être plus, qui considèrent que ces positions internationales sont peut-être rédhibitoires pour demain endosser le costume de président de la République.
Thomas Legrand.
Alors sur le ralliement de Marion Maréchal Le Pen, alors ça c'est extraordinaire, tout le flonflon, tout le spectacle qu'on lui fait, alors que c'est quand même une popularité de baudruche, c'est un vide. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un discours de Marion Maréchal Le Pen, c'est un enfilage de perles. Elle est directrice d'une école vide. Et c'est voilà, c'est une égérie comme ça.
Quand même une notoriété.
Elle est blonde.
Elle a une notoriété. Nabila aussi a une notoriété. La notoriété, ça veut rien dire. Non, c'est politique.
Elle a été élue. Elle
a été élue une fois, voilà, députée. Et puis elle s'est pas représentée. Et depuis, elle n'a rien produit. Elle n'a rien produit politiquement. Et à chaque fois qu'elle ressort, ça, tout le monde s'extasie parce qu'elle est blonde, réac et de droite, et qu'ils ont besoin de ça, et que Valeurs Actuelles sait très bien le mettre en scène, mais ça ne fait rien. Quant à Éric Zemmour, ben, là, c'est un peu le cocu de l'histoire, parce que là, on ressort, tout le monde va ressortir, ses opposants, les journalistes, les réseaux sociaux vont ressortir tout le bien qu'il a dit de Vladimir Poutine, mais le bien politique. Il rêve d'un Vladimir Poutine pour la France, il rêve de la politique de Vladimir Poutine, donc...
Y compris cet article du JDD du jour, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette enquête très intéressante qui fait qu'on apprend qu'en 2015, les Russes se sont intéressés fortement au pouvoir d'influence d'Éric Zemmour dans le champ médiatique français.
Et au relais possible en France.
Rencontre avec un oligarque russe à l'époque.
Pour l'instant, s'il y a une guerre de civilisation, c'est une guerre entre la démocratie et les dictatures, c'est pas une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Il s'est trompé de guerre.
Et parce qu'en 2015, Éric Zemmour était une des rares personnalités qui n'était pas encore politique à l'époque, mais en tout cas à contester la décision de François Hollande de ne pas vendre les Mistral, vous vous souvenez, ces sous-marins nucléaires. Et son électorat, vous le rappeliez, Marcelo Westfred, est plus âgé, plus CSP+, comme on dit, est sans doute beaucoup plus sensible à ses positions sur ces questions. Pour en revenir juste à la question de Marion Maréchal. Marion Maréchal, j'arrive pas très bien à dire ce qu'elle incarne aujourd'hui. C'est vraiment du marketing électoral, sa manière de nous ambiancer comme ça depuis des semaines sur sa venue. Je sais pas très bien qui elle représente aujourd'hui. Quant à l'électorat éventuel qu'on pourrait lui imputer, celui de la droite, je crois qu'il est de la droite, il est déjà chez Zemmour depuis un petit moment. Il a déjà déserté le camp Pécresse depuis plusieurs semaines. On la voit dévisser, elle, dans les sondages.
Alors Marine Le Pen, elle estime que Marion Maréchal sert de bouée de sauvetage à son rival qui, dit-elle, est en train de s'effondrer. Marine Le Pen qui demande plus que jamais à Emmanuel Macron de descendre dans l'arène pour débattre du principal sujet de préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Où est l'argent, demande Marine Le Pen, qui était en meeting à Aigues-Mortes dans le Gard hier.
Nous payons toujours plus. Et plus nous payons, moins il y a d'État. Moins il y a de policiers, moins il y a d'infirmières, moins il y a de postiers, de médecins, moins il y a de services publics. Alors, la question que posaient les Gilets jaunes avant d'être durement réprimés par M. Castaner est toujours d'actualité 3 ans après. Où passe l'argent? Où passe notre argent? Où passe votre argent?
Et elle gauche.
Elle est sur l'impensé de la lettre d'Emmanuel Macron, qui va être précisée par la suite dans sa campagne, mais le mot pouvoir d'achat n'est pas dans la lettre aux Français envoyée aux journaux de presse quotidienne régionale et que les Français ont pu lire depuis vendredi matin. Il n'y a pas le pouvoir d'achat. Donc c'est là-dessus qu'elle va s'engouffrer pour dire, voilà, les sanctions économiques que la France inflige à la Russie, je suis d'accord, je soutiens le président en exercice, à condition que l'État compense le manque à gagner pour les Français. Donc si l'État paye les effets collatéraux des sanctions économiques imposées à la Russie, alors là, je le soutiens. Évidemment, c'est un positionnement très, très habile qui la met d'ailleurs dans un autre registre, hein, vraiment que celui d'Éric Zemmour. Hein. Elle continue son recentrage par la question du pouvoir d'achat ou par l'accueil des réfugiés ukrainiens, hein, qu'elle assume. Elle le dit en meeting. Elle se différencie très fortement d'Éric Zemmour là-dessus. Donc voilà, elle pose la question des suites, des conséquences des sanctions économiques russes.
Ah ben, j'aime Chidi.
Ouais, elle a vraiment cette stratégie, vous venez de le rappeler, très, très sociale, très, très pouvoir d'achat. Et puis, il y a quand même autre chose qui est plus nouveau chez elle, c'est cette propension et cette volonté d'afficher son visage le plus souriant. Elle est désormais très encline à accueillir absolument toutes les réfugiés ukrainiennes et ukrainiens. Elle essaie de passer pour le plus sympathique possible. Et il y a un détail que je trouve assez marquant, c'est là, son recours quasi systématique à l'argument félin. Je sais pas si vous avez fait attention au moment il a été question d'un grand rassemblement de fédérations de chats, où elle s'est offusquée de l'absence des équipes russes. J'ignorais que ça existait. Donc, et à chaque instant, elle essaie vraiment de rassurer aussi, de se présenter sous son jour le plus doux, pour se différencier également des positions plus raides d'Éric Zemmour.
Un politique du chat.
Et les chats retombent toujours sur la patte. Elle gomme bien ses aspérités. Hier, elle était là sur une plage à voir des chevaux passé dans les traditions du Gard, etc. Donc vraiment, elle cultive quelque chose d'une image souriante, l'amour des animaux. Et puis, pardon, j'ai perdu mon idée.
Avec lui et sans lui, elle joue le même en termes d'image. Il y a avec lui Emmanuel Macron, oui. Elle a créé le slogan sans lui.
Sans lui, mais je trouve que sur le front, elle fait une stratégie qui est assez proche de celle d'Emmanuel Macron, dont le slogan est avec vous. À savoir que finalement, Macron dit, je vais m'occuper des sujets de préoccupation du quotidien. Et elle, finalement, elle fait quelque chose d'assez désidéologisé aussi. Puisque si je vous enlève la TVA sur le gaz, sur le carburant, sur l'électricité, on parle du pouvoir d'achat. On est dans une approche qui est beaucoup moins, on va dire, dogmatique, beaucoup moins camp contre camp, et finalement,
et qui parle aux gens.
Et qui recentre beaucoup son image.
Alors voilà pour les événements du week-end. On va remonter maintenant le fil des jours précédents.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Et c'est avec Cyril Lacarrière. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Claire.
Place à votre semaine politique.
Le vent souffle sur la campagne présidentielle française et cette semaine, il nous a fait entendre 2 voix d'une même personne, de Emmanuel Macron, en moins de 48 heures.
La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable.
Vous êtes là pour le candidat. Donc, appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème.
Pour ne pas sombrer dans la schizophrénie, nous allons prendre les Emmanuel Macron, dans l'ordre. Mercredi soir, 20h, allocution présidentielle depuis l'Élysée. Il est évidemment question de la guerre en Ukraine.
La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux.
Depuis 10 jours, la Russie bombarde l'Ukraine sans relâche et cette semaine, Jean-Yves Le Drian nous mettait en garde.
Il est possible que le pire soit devant nous.
Oui, le pire est peut-être devant nous, des mots prononcés avant même le bombardement d'une centrale nucléaire dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans cette séquence où on ne peut plus savoir si on doit avoir peur, très peur, affreusement peur, François Hollande a essayé de désescalader notre peur, justement.
Je vois bien ce que fait Vladimir Poutine. Là, il est en train de créer un climat pour faire peur, pour impressionner. D'où la menace nucléaire dont il s'est
parlé. Vous pensez que c'est du bluff ?
Bah, oui, bien sûr que c'est du bluff.
Et si François Hollande semble sûr de lui, dans cette période de tension extrême, il faut peser chaque mot. Bruno Le Maire s'en est aperçu mardi matin.
Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie.
Une sortie entendue du côté de Moscou. Quelques heures plus tard, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev met en garde Bruno Le Maire. Sur Twitter, il lui préconise de faire attention à son discours. Résultat, le ministre français reconnaît que le terme était inapproprié. On souffle.
Namasté et bienvenue dans cette nouvelle bulle de sérénité. Aujourd'hui, je vous propose une méditation pour faire passer l'anxiété.
Le vent souffle sur cette campagne et il nous amène à Emmanuel Macron, deuxième version. Il y a d'abord eu cette lettre aux Français postée jeudi soir, puis le lancement d'une toute nouvelle série. Voilà, c'est comme du Netflix. L'équipe du candidat Macron a mis les petits plats dans les grands, bande à annonces, décomptes, messages sur les réseaux sociaux, jusqu'à la mise en ligne vendredi 18h, place à le candidat.
J'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
Cette fois, c'est la bonne. Emmanuel Macron n'est plus seulement président, il est aussi candidat. Valérie Pécresse, qui trépignait depuis quelques semaines, a donc vite riposté à cette officialisation. Je vous demande de prêter attention au rythme de son débit. On pourrait croire que nous y avons touché, mais non, c'est 100% naturel.
Emmanuel Macron, candidat, nous dit « Je ferai tout ce que président je n'ai pas fait. Mais qui peut encore le croire ? Pour cela, il faudrait du courage. »
À droite toujours, Laurent Wauquiez était vendredi à Chartres aux côtés de Valérie Pécresse et voilà ce qu'il disait d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est le modèle d'un président de la République tout à la fois monarchique et dictateur.
Effet Bruno Le Maire pour Laurent Wauquiez. Quelques minutes plus tard, l'ancien patron de LR disait qu'il retirait le mot dictateur.
On dit un mot de la gauche, Cyril, l'unité n'est pas pour demain.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, effectivement Claire, il a encore étalé les divisions de la gauche française. On commence avec Johanna Roland, la directrice de campagne d'Anne Hidalgo. Elle attaque Jean-Luc Mélenchon au sujet de ses positions sur la Russie.
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, sur ce sujet, franchement, il s'est fourvoyé hier, il se fourvoie aujourd'hui.
Chez les Verts, on fait encore mieux, selon la fameuse théorie que c'est en se détruisant de l'intérieur qu'on accède aux plus grandes victoires, ou pas.
Bah écoutez, vous avez bien vu que Sandrine Rousseau, depuis des semaines, depuis la primaire, mène d'autres campagnes que la campagne présidentielle. À partir du moment où vos prises de position parasitent la campagne des écologistes,
eh bien vous vous retrouvez viré de la campagne. À 35 jours du premier tour et après des semaines de désaccords, Sandrine Rousseau a donc été éjectée de la campagne de Yannick Jadot, ce qui ne semble pas attrister outre mesure, au contraire. Selon la Dépêche du Midi, la finaliste de la primaire écolo a dit hier qu'elle était déprimée, je cite, de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Les Verts apprécieront.
Bientôt, le plus tard j'espère, je ferai le vide. Les yeux dans le vague, cette chanson lucide, c'est la débandade.
C'est la débandade.
Tout le monde chante aujourd'hui. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On parlera de la gauche dans un instant, mais d'abord sur cette annonce de candidature d'Emmanuel Macron, Marcel Westfred, qu'est-ce que vous en retenez sur la forme en tout cas.
Alors sur la forme, d'abord la lettre aux Français. Ce qui m'a frappé, c'est que il n'y a pas de message fort dedans. Notamment, par exemple, l'un des messages surlignés, pour qu'on comprenne bien que c'était important, c'est « je souhaite préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ». Ouf, qui peut être contre. Il dit aussi « nous avons traversé des crises ». Donc, je m'interroge, est-ce qu'il va être tenté, compte tenu du contexte qui le met en surplomb, parce que chef de guerre, etc., enfin chef de la diplomatie, luttant pour la paix, etc., est-ce qu'il va être tenté de finalement ne pas rentrer trop dans le détail d'un projet? On savait qu'un président qui se représente, il présente pas un programme de 80 pages, mais on pouvait penser à une vision et on nous avait vendu des choses disruptives, des choses un petit peu innovantes, des aspérités. Est-ce qu'il va pas être tenté de rester en hauteur et de faire quelque chose dans lequel il va pas, là, alors, Un autre élément, demain, il était censé aller faire une réunion sur l'éducation, présenté comme l'un de ses thèmes forts qu'il voulait installer, des propositions. Finalement, il va faire une conversation avec des Français à Poissy, chez quelqu'un, Carl Olive, qui lui est très proche. Donc, est-ce qu'il va avoir cette tentation? Et dernière chose, ce clip de campagne dont vous avez parlé un peu en ironisant, il est là, il est dans son bureau, il a deux bureaux à l'Élysée, c'est son bureau de travail, il sort de ses appartements privés, on sent bien qu'il va rester très président et assez peu candidat, avec un risque toutefois, c'est que s'il ne présente pas de projet, au bout d'un moment, comment va-t-il pouvoir réformer s'il est réélu?
Alors, à propos de ce flou que vous évoquez, Marcel Westfred, vous venez de nous le dire, il ira demain à Poissy, chez Carl Olive. On a essayé de savoir effectivement à quoi allait ressembler cette conversation avec les habitants autour des sujets qu'ils choisiront. C'est ce qu'on nous précise pour cette réunion de demain. Écoutez ce qu'en dit Richard Ferrand. Il était invité de Dimanche en politique sur France 3 à la mi-journée. C'est pas tellement plus précis.
L'idée est d'être mis en situation avec des Françaises et des Français qui auront à cœur de poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser et qui sont communes à l'ensemble de notre population.
Donc en fait, ça va être ça plutôt l'angle d'attaque de la campagne. Ça va être ça la particularité de la campagne d'Emmanuel Macron, rencontrer des Français au coup par coup.
Non mais, comme vous savez, ce sont les Français qui votent et qui décident. Oui. Donc quand on est en campagne, c'est bien d'aller à leur rencontre.
Alors quelques sous-titres quand même. C'est un panel de 200-250 Français habitant Poissy. La mairie de Carl Olive, maire d'hiver droite, devenue Macron compatible après la crise des Gilets jaunes. Et en fait, on reproduit le grand débat national, version campagne, version pas trop de risque non plus, parce que j'imagine pas d'anti-macronistes féroces dans cette salle. Et donc, pour Emmanuel Macron, c'est plutôt un cadre auquel il est habitué, qu'il a beaucoup pratiqué en 2018-2019. Donc, pas très très surprenant. Donc, plutôt... si on ajoute l'agora des Français sélectionnés par la mairie de Poissy et Netflix de l'autre côté, enfin la copie de Netflix sur un feuilleton qui aura lieu, disons-le, tous les vendredis 18h05, c'est un vidéocast où Emmanuel Macron dira de l'intérieur comment il vit sa campagne sans passer par l'intermédiaire des journalistes. Donc voilà, ce ne sont pas des journalistes qui poseront les questions demain à Poissy, ce ne sont pas les journalistes qui réalisent ce vidéocast payé par l'équipe de campagne d'En Marche auprès d'un documentariste qui s'appelle Stéphane Gillot, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, la question c'est à quel moment ce président candidat sera accessible aussi au filtre d'un métier qui est important aujourd'hui, surtout en temps de guerre, la presse.
Et à quel moment il y aura un débat, Vadjam Chidi?
Ça, je ne sais pas quand il y aura un débat, mais ce qui est assez marquant, et vous l'avez relevé sur la forme de cette vidéo, c'est que quand même, il y a un détail qui est assez dingue, c'est qu'elle est tournée à l'Élysée. C'est-à-dire qu'il est candidat, il dispose d'un QG aujourd'hui, et cette vidéo est intégralement tournée, en tout cas pour ce premier...
C'est parce qu'au moment où il écrit la lettre, il est encore président. C'est ça aussi, la subtilité, c'est ce qu'on m'a raconté derrière.
Oui, mais je veux dire, Emmanuel Macron aurait aussi pu se déclarer il y a un moment, et on sent qu'il y a chez lui une espèce de tension quand même et de propension à se déclarer le plus tard possible, à attraper un peu du bout des doigts ce costume de candidat, en tout cas le faire le moins possible. Puis on voit bien là que dans ce compte, parce qu'il aurait pu le faire avant, et avant, je vous rappelle que l'argument qui était invoqué par son entourage, c'était qu'il y avait Omicron et que c'était très compliqué de le faire dans ce contexte de toute fin, de dernière vague de coronavirus. Et là, quand on regarde les sondages, franchement, compte tenu de ce contexte ukrainien qui vit vitrifie absolument toute possibilité de débat, on vient de le dire. Même Jean-Luc Mélenchon ne veut pas trop l'attaquer sur le fond. Bah, il mène en fait une campagne idéale, le chef de l'État.
Thomas Legault.
Vous savez, Pierre-Henri Taguieff, le sociologue, avait donné une définition du populisme. Il y a beaucoup de définitions du populisme, mais l'une des définitions que je trouve assez convaincante, c'est quand un chef de l'État veut s'adresser directement au peuple en évitant, en enjambant tous les corps intermédiaires. Tous les filtres, que ce soit les opposants ou les journalistes. C'est ce que est en train de faire, et donc c'est du populisme, c'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Il y aura sans doute des interviews, mais multiplier les rencontres comme ça, sans qu'il y ait des gens un peu experts, c'est pas pour... Ça peut paraître comme ça, nos auditeurs vont se dire, voilà, c'est une défense de corps, c'est des journalistes qui se disent, ils n'auront pas Emmanuel Macron en face de nous, c'est pas le problème du tout. Il faut qu'il y ait des gens un peu pointu quelquefois, que ce soit des opposants ou des journalistes ou des spécialistes qui puissent poser des questions, mettre le doigt sur des éventuelles contradictions. Parce que là, comme l'a dit Marcelo, la lettre, c'est une lettre que tout le monde peut signer, et le clip, c'est un clip, avec tout ce que ça a d'un peu abêtissant quand même.
En attendant, Emmanuel Macron parle aux grands de ce monde. Il a eu Vladimir Poutine au téléphone aujourd'hui encore, 1h45 de conversation. Il parle aussi avec le président ukrainien. Et à propos du président ukrainien, c'est à lui que Jean Massier consacre ce soir sa chronique au Laïc citoyen.
C'est un visage, celui d'un homme de 44 ans aux traits usés et fatigués. Ce visage, c'est celui de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Ce visage, il nous est devenu familier puisque Zelensky tient à nous le montrer lui-même. Depuis la semaine dernière, il communique quotidiennement sur les réseaux sociaux. Il s'exprime notamment dans des vidéos qu'il tourne lui-même avec son téléphone. Un véritable chef de guerre en mode selfie. Mais il faut savoir que c'est pas nouveau pour Volodymyr Zelensky qui a une histoire particulière avec les réseaux sociaux. Déjà en 2019, il avait voulu en faire l'un des marqueurs de sa campagne présidentielle. Un candidat anti-élite, anti-corruption, qui avait pris le parti de ne faire campagne que sur les réseaux sociaux. Aucun meeting, aucune interview dans les médias. Ce choix avait d'ailleurs été vivement critiqué par les journalistes ukrainiens qui l'avaient interpellé en réclamant qu'il lui réponde dans un souci démocratique. Zelensky a bénéficié d'une prime à l'authenticité, à la sincérité. Ce pari a visiblement été payant puisqu'il a été élu. Les Ukrainiens sont très friands de réseaux sociaux, ils sont près de 60% à être sur Facebook et sur Instagram tous les jours. C'est pas étonnant qu'une fois devenu élu, donc Zelensky a continué à publier régulièrement des vidéos en tenue décontractée, en s'adressant directement aux Ukrainiens sans intermédiaire. Cette communication a pris une toute autre ampleur avec la guerre. Depuis la semaine dernière, il publie tous les jours des vidéos qu'il filme lui-même à bout de bras, exhortant la population à résister à l'invasion russe. Écoutez-le par exemple le 26 février, c'était 2 jours après le début de l'attaque russe, il est dehors dans la rue, à Kiev, et il se filme lui-même avec son téléphone.
Eh bien je suis là.
On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine.
Voilà, il faut savoir qu'il ne peut plus se filmer au grand air depuis quelques jours puisqu'il est contraint de se réfugier dans son bunker pour se protéger des bombes et des tentatives d'assassinat. Zelensky, par cette méthode, en fait, il nous donne à voir sans aucun filtre ce qu'il est. Une victime, une proie même, susceptible de mourir d'un jour à l'autre. Zelensky est à l'image des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui souffrent. Mais surtout, il est à notre image. Et c'est là toute la puissance de cette communication de guerre 2.0. Zelensky nous renvoie à nos propres selfies et nous montre que nous aussi, nous pourrions bien être à sa place, victimes de l'agression russe. Cet appel du pied à l'opinion publique mondiale semble fonctionner. Plus de 3 millions de nouveaux followers sur Twitter en quelques jours et plusieurs centaines de milliers de manifestants dans les rues, dans beaucoup de capitales, hier. Quoi qu'il en soit, Zelensky est devenu un visage planétaire et un élément déterminant de cette guerre de l'image.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Avec ce soir autour de cette table, Ava Jamshidi du magazine Elle, Marcelo Westfred du Parisien, Thomas Legrand et Yael Gauz de France Inter. On dit un petit mot de Valérie Pécresse. Yael, elle a du mal à remonter la pente.
Oui, et c'est même ses plus proches qui le confient régulièrement depuis quelques jours. Hein. C'est inquiétant, une série de maladresses à vouloir être présidente, se montrer telle qu'elle quand on n'a pas les manettes. Les autres candidats ne tombent pas dans ce piège-là. Et elle, depuis lundi, à coup de conseils stratégiques, de défense, de gouvernement bis, de shadow cabinet, mise en scène à son QG de campagne, eh bien, elle tombe dans ce piège qui est de vouloir faire présidente quand on ne l'est pas encore. Alors que les manettes, elles sont à l'Elysée, elles sont à l'OTAN, elles sont dans la négociation européenne avec Poutine. Et c'est pas le statut qu'a Valérie Pécresse aujourd'hui. Ajoutez à cela des défections lourdes. Jean-Pierre Raffarin n'était plus chez les LR depuis 2019. N'empêche qu'il choisit finalement d'aller vers Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy et son silence abyssal est extrêmement troublant aussi et gênant pour Valérie Pécresse. Donc voilà, il y a toute une série d'événements qui font qu'en ce moment, on ne sait pas comment elle peut rebondir. Son équipe de campagne s'en inquiète.
Marcelo Westfred, vous vouliez ajouter un petit mot sur Valérie Pécresse ?
Comme elle est un peu dans les cordes, elle prend des risques. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors jeudi soir, elle sera en débat, elle a accepté un débat face à Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un peu son sport d'excellence, le débat. Donc elle va sur un terrain où elle prend des risques. Et c'est peut-être là où on va peut-être voir une autre Valérie Pécresse, sachant que c'est vrai qu'elle a décroché. Mais pardon, personne n'a encore creusé l'écart pour cette place de deuxième.
C'est là que tout se joue.
Très ouvert.
Alors,
Alors, il y a des questions de forme, évidemment, mais il y a aussi quand même un problème qui est celui de son positionnement politique. Valérie Pécresse est coincée entre Emmanuel Macron. Là, si on prend le cas de l'Ukraine dont on parle depuis le début de cette émission, on voit pas très bien quels sont les marqueurs différenciants qu'il y a avec le chef de l'État. Et depuis le début de cette campagne, on la sent un peu prise en étau, comme ça, embarrassée entre Éric Zemmour, sur les terres duquel elle a tenté de braconner un peu, et Emmanuel Macron. Et c'est à l'évidence aussi cela qu'elle paie, en plus de toutes les bourdes d'images et de gadgets qu'elle a pu engranger depuis le début de sa campagne.
Un petit tour et puis s'en va. Christiane Taubira ne sera restée candidate à la présidentielle qu'un mois et demi environ, mais elle a jeté l'éponge, faute de parrainage.
Je m'adresse à vous aujourd'hui pour mettre un terme à un inutile suspense. Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages.
Voilà, Christiane Taubira out. Yannick Jadot lui fait du pied. Pour l'instant, Christiane Taubira n'a pas dit si elle souhaitait appeler à voter pour Yannick Jadot ou pas. Toujours est-il que la primaire populaire a fait savoir dans un communiqué qu'elle soutenait l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Je suis sûr que ça vous inspire, ça, Thomas Legrand.
Pas du tout. Je pense que ça ne changera rien à personne. C'est une mascarade démocratique qui finit en capilotade. La logique eût été que la primaire populaire désigne le numéro 2, celui qui avait une note, j'ai oublié la note, plus moins bien que si c'était un peu mieux. Elle l'a pas fait, ça représente rien ni personne, ça ne changera pas une voix, et je pense pas que ça mérite beaucoup plus de commentaires.
Yannick Jadot, en tout cas, dit la primaire populaire est devenue un gag du côté de Mélenchon. Bon, on prend quoi.
Ah ben on en branche.
Voilà. Après avoir beaucoup critiqué. Un petit mot, vous vouliez parler tout à l'heure, Yael Gauss, de Sandrine Rousseau.
Oui, écoutez, oui, c'est quand même un problème, une épine dans le pied de Yannick Jadot pour des propos off rapportés dans Le Parisien, mais. Pour avoir eu régulièrement Sandrine Rousseau depuis la rentrée, c'est des choses qu'elle dit vraiment très fréquemment, des critiques lourdes sur la campagne telle qu'elle est menée par Yannick Jadot. Donc c'était pas un scoop finalement de voir qu'à un moment donné la crise allait éclater et qu'elle allait être.
On rappelle juste ce qu'elle aurait dit d'après les propos rapportés par le Parisien. Zemmour et Macron imposent un récit. Nous on vend des chaudières.
Voilà, des chaudières écologiques, hein, mais des chaudières quand même. C'est très très violent pour Yannick Jadot. Le problème, c'est que, revenons aux origines de la primaire écolo septembre 2021, avec à peu près 120 000 votants, si je ne m'abuse, c'est 49%, Sandrine Rousseau. C'est 49% de Yannick Jadot, si je caricature, si je schématise. Comment ça se passe après? Et où ira-t-elle? Et si elle va vers Jean-Luc Mélenchon? Si elle va vers l'Union Populaire, qui est le SAS, pour rentrer chez Jean-Luc Mélenchon? Voilà,
justement, c'est
un petit peu problématique pour Yannick Jadot.
C'est l'erreur des gagnants de la primaire. Ils pensent qu'il faut, alors qu'ils ont gagné la primaire, qu'il faut réunir leur propre camp. Or non, une fois qu'ils ont gagné la primaire, il ne faut pas réunir leur propre camp. Ils doivent s'adresser directement aux Français. Donc il aurait dû virer Rousseau.
Le premier jour.
Exactement comme Pécresse aurait dû prendre ses distances d'Éric Ciotti dès le premier jour. Parce qu'on s'adresse à tous les Français.
Mais personne ne le sait jamais.
Le problème, le piège absolu des primaires, c'est que, effectivement, quand vous voulez réunir à tout prix, vous vous retrouvez avec un boulet qui peut s'appeler Ciotti.
On commence
quand vous êtes Pécresse ou Rousseau. Mais inversement, souvenez-vous de Benoît Hamon, il ne fait pas l'union avec Valls. Valls n'entend même pas lui serrer la main le soir de sa désignation à Benoît Hamon et s'en va. Et au final, ça finit à 6%. C'est-à-dire que vous fassiez l'union ou que vrai, vous jouiez votre carte personnelle sans réunir. Souvenez-vous de François Fillon qui ne réunit pas l'ensemble des LR. Et ben vous trouvez quand même dans une impasse. Ça veut dire que cette idée de la primaire qui était une bonne idée sur le papier pour surmonter l'impasse des partis qui tombent en déliquescence, et ben c'est peut-être une fausse bonne idée.
Alors un tout petit mot, Vadjane, et puis on va passer au bobino de Thomas Legrand.
Primaire, François Hollande élu. 2017, François Fillon et Benoît Hamon sont sortis du chapeau de primaire. La différence quand même avec François Hollande, c'est que tous les deux ont fait de très mauvaises campagnes. Oui. Et quand on regarde les sondages aux sorties de primaire, ils étaient en tête l'un comme l'autre.
Oh, le plus fort, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui n'était pas candidat à la primaire populaire et qui la gagne à la fin.
Ça, c'est quand même effectivement pas mal.
Joli tour de passe-passe.
Voilà. Dernier point qu'on va évoquer, c'est celui du nombre de candidats qui seront finalement retenus. On saura demain, le Conseil constitutionnel nous dira ça à midi. On verra combien il y a de petits candidats. Je dis petits parce que ce soir, Thomas Legrand, dans vos bobineaux, vous avez choisi de nous parler d'un petit candidat, Marcel Barbu. Il a été candidat, lui, à la présidentielle en 1965.
Oui, c'est un candidat oublié, un peu farfelu, qui avait obtenu ses parrainages en 65. Il en fallait que 100 à l'époque. Marcel Barbu avait été quelques mois parlementaire à la Libération et il est le premier à dénoncer ce que l'on appellera des décennies après le jupitérisme. Il reproche à De Gaulle de ne chercher pour la France que la grandeur et la gloire. Il craint que le chef de l'État ne s'éloigne du peuple et veut le lui dire directement. Il veut le rencontrer à l'Élysée.
Comme vous, je pense qu'aucun homme, qu'aucune équipe n'est prête à vous succéder. Je vous supplie donc, mon général, oui, je vous supplie, et je n'hésite pas à me faire suppliant, tant ma démarche est grave et lourde de conséquences, je vous supplie donc de bien vouloir me recevoir et m'entendre le plus tôt possible. Je suis sûr que vous avez un cœur d'homme, mais ce cœur, vous l'avez rendu inaccessible à tout ce qui n'est pas le prestige et la grandeur de la France conçue en termes de domination.
Alors, De Gaulle ne s'occuperait que de la France et pas des Français. C'est une critique qu'il portait et que formule aussi le candidat de gauche de la gauche unie, François Mitterrand. D'ailleurs, De Gaulle sent le danger. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de parler enfin des Français. Vous savez, la ménagère, qu'est-ce qu'elle veut? Un frigo, une auto? On a déjà passé cet extrait dans les bobineaux. Marcel Barbu s'adresse aux Français lors de la campagne sur un ton étrange en politique. Il implore le général de redescendre sur terre. Et écoutez, vous allez le sentir, il a les larmes aux yeux à ce moment-là.
Mon général, vous avez faim de l'amour des Français. J'en suis sûr. Et cela crève les yeux. Mais jusqu'ici, vous n'avez su obtenir d'eux que leur admiration. Les Français vous admirent, mais ils ne vous aiment pas, mon général. Et pourtant, eux aussi ont faim de vous aimer. Non, mon général, ne repoussez pas la main qui vous est offerte. Je vous demande de me recevoir au plus tôt. J'irai frapper ce jour même à votre porte.
Voilà, alors il sera pas reçu. Oui, c'est beau, c'est triste. Il ne sera pas reçu par le général. Il fera 1%. Aujourd'hui, on semble souvent regretter la hauteur de vue, la distance d'un homme d'État historique tel que le général de Gaulle. Mais il n'est pas inutile de rappeler qu'à l'époque, eh bien, la stature du général, justement, commençait à poser problème. Et 4 ans après, ben, il en subira les conséquences.
Merci beaucoup, Thomas Legrand. C'est passé très vite ce soir. On avait beaucoup de choses à dire. On n'a pas beaucoup de temps pour la semaine à venir.
C'est gentil, d'ailleurs.
Mais oui, absolument. Allez, vous avez chacun 20 secondes pour nous dire ce qui, pour vous, est à surveiller dans la semaine qui vient. Marcel Ovesfred.
Ben, je vais parler de Ava, est trop modeste pour en parler, mais elle co-anime une émission lundi soir.
Mais elle va nous en parler quand
peut-être
même.
Peut-être demain, viendra, je ne sais pas. Et puis sinon, il faudra évidemment regarder le sommet des chefs d'État à Versailles, jeudi et vendredi, sur la question ukrainienne, puisque ça a un impact considérable dans l'international et évidemment pour le national.
Ah bah,
je vais quand même vous parler de cette émission, oui. Pardon pour l'immodestie, mais qui est un format qui est assez inédit, où donc avec le magazine Elle en partenariat avec LCI, on a décidé d'inviter toutes les candidates et les candidats, enfin 8 d'entre eux, à répondre aux questions d'un panel de 6 lectrices du Elle, où il sera question d'égalité salariale, de parité, de la question des violences sexuelles et sexistes. Tous les candidats déclarés donc ont été invités. La porte
demain
est ouverte pour la présence d'Emmanuel Macron. Tout à fait.
C'est demain soir ?
C'est demain soir.
Sur LCI. Allez, 5 secondes.
La politique terre de contraste. Jeudi soir, débat Zemmour-Pécresse sur TF1. En même temps, Versailles, l'Europe, l'Ukraine, ça se joue là-bas. C'est à l'image de cette campagne à deux vitesses, percutée par une crise beaucoup plus grave.
Merci beaucoup Thomas, j'ai plus le temps de vous donner la parole. Un très grand merci à tous les quatre. On vous retrouve demain matin de toute façon, Thomas Legrand, sur l'antenne de France Inter. C'est l'heure de la pub.
Cette élection, mes amis,
il fallait que ce soit un coup d'éclat.
Je vous aspire.
Gagnez.
Je vous respire.
La victoire.
Oui, mes amis.
Et vous tous.
Vive la République. Vive la liberté.
Vive l'écologie.
Et surtout.